Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous parlerons encore de la tragédie de Lampedusa dans ce magazine. L'émotion reste forte alors que les promesses européennes sont accueillies avec scepticisme et amertume. Au Vatican, on a prié ce mercredi pour les victimes. Les évêques d'Afrique du Nord sont à Rome. Le pape François les a exhortés à consolider leurs relations fraternelles avec les musulmans. Nous verrons que dans plusieurs pays comme l'Égypte, la situation est difficile. Amnesty International a publié un rapport sévère à l'égard de l'armée. Le pape François ne veut pas d'une église élitiste, uniforme et repliée sur elle-même. Il veut une église ouverte à tous, où les diversités puissent cohabiter dans l'harmonie. Il l'a expliqué à l'audience générale, compte rendu dans cette émission. Un groupe de 7 évêques éthiopiens et érythréens de tradition alexandrine a assisté à l'audience générale ce mercredi matin au Vatican. Plutôt dans la matinée, dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, ils avaient concélébré une messe en mémoire des victimes de la dernière tragédie de Lampedusa. Le bateau qui a fait naufrage il y a une semaine transportait environ 500 ressortissants de la Corne de l'Afrique, en majorité des érythréens, fuyant la misère et la dictature. La concélébration était présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, lui aussi présent à l'audience générale. Le pape François les a salués avec affection. Une fois encore, il s'est dit proche dans la prière et la douleur de ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Au même moment, c'est par une population hostile que le président de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien Enrico Letta étaient accueillis à Lampedusa. Xavier Sartre.
Ils ont été accueillis par les huées des habitants en colère. En signe de protestation, les pêcheurs de la petite île ont fait résonner leurs sirènes. À Lampedusa, les immigrés clandestins qui ont fui les guerres et les dictatures s'entassent dans un centre d'accueil surpeuplé, transformé en champ de boue après les fortes pluies de ces derniers jours. Les dirigeants italiens et européens étaient venus se recueillir devant les corps de 289 migrants repêchés en mer et alignés dans un hangar. Face à la colère, ils ont bouleversé leur programme à la dernière minute pour visiter le centre d'accueil. José Manuel Barroso a assuré que l'Europe ne pouvait pas se détourner. Il a annoncé le déblocage de 30 millions d'euros pour la rénovation des centres d'accueil. La Commission européenne a demandé la contribution de ses États membres à une opération de sécurité de sauvetage. Pas question, en revanche, de revoir l'accord de Dublin qui impose aux pays d'arrivée de traiter les demandes. Les pays du nord de l'Europe y étant opposés. Selon le site Fortress Europe, 6825 migrants sont morts noyés dans les eaux de Lampedusa depuis 1994, dont 2352 dans la seule année 2011, le plus souvent dans l'indifférence générale.
Les évêques de la Conférence épiscopale d'Afrique du Nord, qui ont préféré tenir à Rome leur assemblée générale, étaient eux aussi présents à l'audience générale ce mercredi matin. Le souverain pontife les a exhortés à consolider leurs relations fraternelles avec les musulmans. Et quand il s'est adressé aux fidèles de langue arabe, il leur a demandé de prier pour la paix au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Égypte, Liban et en Terre Sainte, où est né Jésus, le prince de la paix. Cela fait un an, a-t-il rappelé, que la langue arabe a été inscrite parmi les langues utilisées aux audiences générales hebdomadaires. Benoît XVI l'avait décidé après son voyage au Liban pour exprimer la proximité de l'Église catholique avec tous les chrétiens du Moyen-Orient. En Afrique du Nord comme au Moyen-Orient, les chrétiens minoritaires sont parfois soumis à des vexations et des persécutions. Ce mercredi, Amnesty International affirme dans un rapport que les forces de sécurité égyptiennes ont échoué à protéger les Coptes après la répression sanglante des partisans du président islamiste déchu, Mohamed Morsi. La communauté chrétienne est la cible d'attaque de la part des islamistes qui accusent les Coptes d'avoir soutenu l'armée dans la destitution de Morsi. Plus de 200 propriétés détenues par des chrétiens ont été attaquées, 43 églises sérieusement endommagées, des reliques profanées, des maisons saccagées aux cris de Dieu est grand et chien de chrétiens. Olivier Bonnel a interrogé Asiba Hadj Sarawi, sous-directrice d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
La communauté copte en Égypte a fait l'objet de discriminations et d'attaques sous Moubarak, sous le Conseil suprême des forces armées, sous le président Morsi Et on a observé aussi, par contre, un niveau de violence beaucoup plus élevé lorsque le président Morsi a été destitué. On avait observé cette incitation à la violence, un discours inacceptable de la part de certains sympathisants du président Morsi. Selon les témoignages que nous avons recueillis, dans différents endroits, différents villages, différentes villes, au moment de l'appel à la prière, vous avez, venant des mosquées, avec des haut-parleurs, des appels aux musulmans pour protéger leurs frères qui ont été tués alors qu'ils priaient, pour intervenir un langage extrêmement violent en utilisant des termes très péjoratifs. La communauté copte est désignée non pas comme les chrétiens, mais plutôt comme les Nasara, qui est un terme extrêmement péjoratif. On parle d'impies, on a recueilli des témoignages où on vous dit ces chiens de chrétiens, etc. Des choses choquantes. Et on voit ces attaques contre les différentes églises.
Ce que vous relevez vraiment, c'est que toutes ces violences auraient pu être anticipées par l'armée et les forces de police, mais ne l'ont pas été.
Absolument. Les forces de sécurité n'interviennent pas alors que les premières manifestations de violence ont lieu au petit matin, n'interviennent pas jusqu'à 7 heures du soir. Et quand les forces de sécurité interviennent, on a ce cas horrible, vraiment, où vous avez des membres de la communauté copte qui sont encerclés par la foule dans une maison. Les forces de sécurité interviennent pour évacuer les femmes et les enfants, mais laissent les hommes se faire lyncher par la foule. Quand on sait qu'il y a déjà tout ce contexte, quand on sait qu'il y a de l'incitation, quand on sait que la simple présence du pape de l'église orthodoxe copte aux côtés du général Sisi lorsqu'il a annoncé la destitution du président Morsi, avait immédiatement généré cette perception que les coptes étaient derrière sa destitution. Et la communauté copte se retrouve comme bouc émissaire. Il n'y avait aucun déploiement de forces de sécurité un peu plus important devant les églises. On n'avait aucun plan pour protéger la communauté copte qui avait été discutée par exemple avec les membres de la communauté. Et on a des autorités qui apparaissent ou incapables de protéger la communauté, et dans ce cas-là, il faut se poser de nombreuses questions et de sérieuses questions, ou alors qui, carrément, ont failli à leur obligation de protéger la communauté parce qu'elles étaient dépassées, parce qu'elles n'étaient pas préparées, voire on peut se poser aussi d'autres questions quand on sait que les forces de sécurité parfois ne sont pas intervenues alors que les membres de la communauté copte essayaient de les contacter toute la journée. Donc on a recueilli des témoignages où, par exemple, le prêtre d'une communauté va dire « J'ai passé la journée à essayer de contacter l'armée, les forces de police, le gouverneur, etc. » Rien. Des forces de sécurité qui n'interviennent pas alors que les événements se produisent sur plusieurs jours. C'est autant de questions auxquelles on n'a aucune réponse.
2 ans après le massacre de Maspero, on a l'impression que rien n'a changé dans la protection de la minorité copte.
Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a 3 soldats qui ont été condamnés pour la mort de 28 manifestants, dont 27 chrétiens. L'armée, dans un premier temps, qui a cherché à se protéger, qui a nié, et les familles qui ont aucune réponse à ce qui s'est passé. Donc ce qu'Amnesty International demande dans ce contexte, c'est des mesures symboliques aussi, telles que le décret-loi doit être aboli. Il doit être clair qu'il n'y aura aucun obstacle pour construire des églises ou pour préparer les églises.
Une chose est très troublante en Égypte aujourd'hui, c'est que les coptes eux-mêmes ont du mal à critiquer l'armée de peur de passer pour pro-frères musulmans. On sait que le pays est extrêmement clivé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un problème pour vous quand il faut dénoncer ces violences?
Effectivement, le niveau de polarisation dans la société est immense. Oui, il y a un certain sentiment que peut-être les forces de sécurité ont en tout cas sont plus à même de les protéger. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le cas. On a recueilli ce témoignage d'un membre de la communauté copte qui nous dit « Mais il y a un différent entre l'armée et les frères musulmans. En quoi ça nous concerne, nous? Pourquoi est-ce qu'on est toujours rendu responsable de tous les maux de l'Égypte ?» Et c'est vraiment ça. Et finalement, ce que les membres de la communauté copte demandent, c'est à pouvoir vivre en tant qu'Égyptiens en toute sécurité dans leur pays.
Hassiba Hadj-Sahraoui, sous-directrice d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. De leur côté, les chrétiens palestiniens ont manifesté dimanche dernier contre les actes de vandalisme contre leur lieu de culte. Parmi les derniers incidents en date, le cimetière chrétien dans la vieille ville de Jérusalem a été profané par des extrémistes juifs. Au mois d'août, un monastère catholique avait reçu un cocktail Molotov. Ces actes affectent les sentiments des chrétiens des différentes églises de Terre Sainte. Critiquées pour leur indifférence, voire leur laxisme, les autorités israéliennes se sont décidées récemment à réagir. Lundi, François Hollande s'est inquiété du sort des chrétiens d'Orient, notamment en Syrie. Le président français recevait le nouveau président de la Conférence des évêques de France. Selon un communiqué de la présidence, il a exprimé la volonté de la France de se tenir à leur côté. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait également dénoncé devant le Parlement les violences contre les chrétiens d'Orient qui non seulement sont menacés, mais pourchassés et liquidés. Une pétition à l'initiative d'une coordination baptisée « Les chrétiens d'Orient en danger » a été lancée fin septembre en Europe depuis Paris pour dénoncer l'épuration religieuse massive et silencieuse que subissent ces minorités en Égypte, en Irak, en Syrie et bientôt peut-être au Liban. Malgré le mauvais temps ce mercredi, des dizaines de milliers de fidèles s'étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome pour assister à l'audience générale hebdomadaire. Le pape François les a remerciés de leur présence et félicités pour leur courage. Sous la pluie, lui-même n'avait pas renoncé à son tour habituel dans la foule, la soutane trempée, le visage mouillé, à bord de sa voiture découverte, bénissant les fidèles, embrassant les enfants sous les acclamations. Le pontife argentin a axé sa catéchèse sur la catholicité de l'Église. Elle est catholique, a-t-il dit, parce qu'elle est comme un grand orchestre où les diversités cohabitent dans l'harmonie, et il a mis en garde contre l'uniformité qui tue l'Église. Olivier Bonnel.
Non à une Église élitiste et repliée sur elle-même. Oui à une Église ouverte à tous, sans distinction. L'Église n'est pas l'ombre de notre clocher, avertit le pape François. Elle est catholique parce qu'elle est la maison où la foi tout entière est annoncée et où le salut est offert à tous. L'Église est catholique parce qu'elle est universelle, c'est-à-dire présente partout dans le monde, dans chacune de nos paroisses. Et puisqu'il aime les images, pour expliquer ses propos, le pape a proposé l'exemple de la symphonie où l'harmonie générale n'efface pas le timbre de chaque instrument. L'Église, explique-t-il, est catholique parce qu'elle est la maison de l'harmonie. Elle est comme un grand orchestre où la variété et la diversité de ses membres n'entrent pas en conflit. La particularité de chacun est au contraire valorisée au maximum et la variété est transformée en harmonie par l'Esprit Saint, le vrai maître. Nous ne sommes pas tous semblables et nous ne devons pas l'être, a encore observé le pape, faute de quoi nous prenons le risque de tuer les dons de l'Esprit Saint. Chacun apporte ce que Dieu lui a donné pour enrichir les autres. Enfin, cette harmonie, il faut aussi la vivre au sein des paroisses, des communautés, des mouvements. S'il y a des commérages ou des luttes, alors ce n'est pas l'Église. Le pape François exhorte donc les fidèles à ne pas avoir peur de prier l'Esprit Saint, afin qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de communion, toujours prêts à annoncer avec joie l'Évangile du salut, car l'annonce de l'Évangile, c'est l'affaire de tous.
Ce mercredi, la Commission pontificale pour l'état de la Cité du Vatican a adopté une nouvelle loi contenant des normes en matière de transparence, surveillance et information financière. Les dispositions adoptées par décret le 8 août dernier par le président du gouvernorat et qui étaient déjà en vigueur ont désormais force de loi. La dernière tragédie de Lampedusa a ramené la Corne de l'Afrique sur le devant de la scène. Surtout l'Érythrée, que certains surnomment la Corée du Nord africaine, où un président concentre tous les pouvoirs entre ses mains, où il n'y a ni opposition, ni presse libre, ni constitution, ni élection. Alors que le cas de la Somalie est mieux connu. La Somalie, pays semi-désertique où la lutte contre les chebabs islamistes a marqué des points, dont la capitale Mogadiscio a été sécurisée par une force africaine après des décennies de guerre, mais dont le reste du territoire est toujours en proie aux conflits interclaniques et au terrorisme. Monseigneur Giorgio Bertin est l'évêque de Djibouti et l'administrateur apostolique de Mogadiscio. Dans ces terres, les chrétiens sont très minoritaires et pour la plupart des étrangers. Ils pensent pourtant qu'ils auraient un rôle à jouer. Antonino Gallofaro l'a rencontré lors de son récent passage à Rome.
Les chrétiens sont quasi exclusivement des étrangers de passage. Et donc, en tant qu'étrangers, nous sommes tolérés, nous sommes respectés. Il y a quelques chrétiens du lieu, mais eux sont fortement discriminés. Eux n'auront jamais un futur de succès. S'ils prennent leur futur comme porter la croix toujours, alors ils peuvent rester et être contents d'être disciples du Christ. Mais s'ils aspirent à une vie meilleure d'un point de vue social, économique, ils ne peuvent pas rester, ils doivent migrer. Donc c'est un monde qui a ses spécificités et qui est très différent du monde typique du Moyen-Orient, où les chrétiens sont les habitants, on pourrait dire, les habitants originels du pays.
La communauté internationale s'est engagée à lever 1,8 milliard d'euros pour le pays. On parle de reconstruction. Oui. Est-ce que dans cette reconstruction, les chrétiens, alors, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ?
Non, dans ce contexte, ils n'ont pas un rôle spécifique à eux. Notre rôle, toutefois, est le rôle dans le domaine humanitaire. Alors, dans ce domaine-là, oui, certainement, nous avons joué un rôle très important de sensibilisation et d'intervention directe, surtout à travers l'œuvre de Caritas. Et en même temps, un rôle de sensibilisation. L'avantage de l'Église catholique en particulier, est que nous pouvons donner ce que d'autres n'ont pas à donner.
Un rôle que prend en considération, que considèrent les nouvelles autorités du pays aujourd'hui ?
Oui, certainement, parce que les nouvelles autorités ont déjà eu une rencontre juste au début de cette année à travers le ministre des Affaires étrangères qui s'est rencontré ici au Vatican, près du Saint-Siège. Ils ont eu une première rencontre. Ensuite, moi aussi, je me suis présenté fort de cette rencontre pour essayer d'avoir une ouverture, étudier un peu la possibilité d'une présence permanente de l'Église. Et je dois dire que les autorités se sont montrées très ouvertes. Le problème est, avec ces autorités-là est que, tandis qu'elles sont bien reconnues au niveau international, au niveau local, elles restent très faibles.
Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre les nouvelles autorités aujourd'hui, un an plus tard et avant ?
Pas plus de facilité, parce que ces nouvelles autorités, elles aussi, ne gouvernent pas. Elles ne contrôlent pas le territoire. Ils ont un contrôle partiel même de Mogadiscio. Et donc, voilà, ce que moi je dis toujours est il faut que nous soutenions la renaissance d'un État, des institutions étatiques, parce que leur renaissance, même d'un point de vue strictement religieux, chrétien, peut rendre possible une présence discrète, si on peut, mais claire et ouverte de l'Église.
Monseigneur Giorgio Bertin, évêque de Djibouti, administrateur apostolique de Mogadiscio. En plus bref, en Belgique, l'archevêque de Malines-Bruxelles s'insurge contre le projet d'étendre l'euthanasie aux mineurs. Il faut s'arrêter, a déclaré Mgr André-Joseph Léonard à l'agence de presse CIR des évêques italiens. De tels projets, souligne-t-il, minent les liens sociaux et la solidarité. C'est une porte qui ne cesse de s'élargir. Ce projet de loi figure parmi les thèmes sensibles de la saison politique. Mgr Léonard redoute par-dessus tout l'influence sournoise qu'un tel climat peut avoir, surtout pour les personnes âgées qui ont peur de devenir un poids pour la société. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a répondu aux questions des journalistes au sujet d'un article paru dans la presse italienne concernant la levée des scellés dans le palais apostolique après le conclave. Le père Lombardi a déclaré qu'il n'y avait aucun mystère à dévoiler. Tout est rapporté dans le procès-verbal publié le 14 mars. À 20h, le 13 mars, après l'élection du cardinal Bergoglio, le substitut de la secrétaire d'État a autorisé la levée des scellés à poser au lieu du palais apostolique réservé au conclave. En revanche, c'est le nouveau pape qui a ouvert l'accès principal de l'appartement pontifical. Aucun mystère à éclaircir donc, a souligné le père Lombardi, déplorant le ton sensationnaliste de l'article. Un prêtre maronite libanais, le père Mansour Labaki, a été suspendu pour agression sexuelle sur mineurs. Il a été reconnu coupable en juin dernier par la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'enquête avait été ouverte il y a 2 ans à la demande du nonce apostolique en France, à la suite de plusieurs signalements. À la fin des années 70, le père Labaki avait créé un foyer pour les orphelins de la guerre civile au Liban, puis une chorale d'enfants. Et en 1990, il avait fondé en France un foyer pour orphelins libanais. Et puis sachez que le pape François a adressé mercredi ses vœux de total rétablissement à la présidente argentine Cristina Kirchner, opérée mardi d'un hématome près du cerveau. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.